Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre podcast 24 consacré au cinéma de Takeshi Kitano. Quelle meilleure période que l'été pour parler du réalisateur de Kikujiro. Quel meilleur moyen de s'imaginer sur une plage japonaise que de revoir les films avec Big Takeshi. Nous accueillons pour ce voyage estival et pour la première fois Nicolas Barle. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Samir.
Oui, bonjour.
Sidi.
Hello.
Fabien.
Bonjour.
Justin.
Salut.
Martin.
Oui.
Et Elvire.
Salut.
Si nous découvrons en France Takeshi Kitano au mi-temps des années 90, quand le cinéaste s'affirme sur la scène internationale avec Hanabi, qui était Lion d'or à la Mostra de Venise en 97, et ne l'oublions pas, acteur dans Johnny Mnemonic en 95, Kitano a déjà connu plusieurs carrières au Japon comme comique, présentateur télé, acteur, réalisateur, peintre et même concepteur de jeux vidéo. Qui est vraiment Kitano avant qu'on ne le labellise comme auteur de cinéma international et comment est-il arrivé en France, Martin ?
Déjà, on peut déjà dire que ça fait 20 ans qu'on connaît Kitano en France. Voilà, on avait déjà eu un aperçu de son talent dans Merry Christmas, Mr. Lawrence de Nagisa Oshima. Mais son premier film en tant que réalisateur sorti dans notre contrée est arrivé justement en juillet 2015, si je me trompe, 1995, excuse-moi. Vraiment une année assez faste, je veux dire, en termes de cinéma asiatique, puisque la semaine précédente sortait The Killer de John Woo. Et c'est avec Sonatin, qui était distribué par Studio Canal, si je ne me trompe pas, qu'on a pu découvrir un talent pour le moins singulier. Même si le public en fait connaissait assez peu le cinéma de Yakuza et des choses comme ça, on était un peu familier, tu vois, de ces coutumes, on va dire, de genre. Et on a très vite compris que, voilà, il prenait à rebours tous les codes. Et il y avait une forme de mélancolie, quand même, qui était très singulière dans son cinéma. Un cinéma très statique, très pictural, entre les scènes de violence extrêmement sèches et brutales, il y avait de la poésie pure, quoi. Voilà, qui prenait des formes tout à fait nouvelles et puis fort réjouissantes, quoi.
Est-ce que vous vous souvenez de l'arrivée justement de Kitano en France à cette époque ? Est-ce qu'il a été reçu directement comme ce grand cinéaste ou est-ce qu'il a fallu quand même attendre Hanabi et 97 pour que la critique internationale le repère un peu comme
la critique française a tout de suite, on va dire, porté au nu Kitano, quoi. Je me souviens des toutes les revues, les plus populaires, Studio et Première, ou alors en passant par Télérama ou des choses un peu plus pointues. Déjà, on avait vraiment on découvrait un grand auteur, quoi. Voilà. Peu de temps après, là pour le coup, les films sortaient un ou deux ans après les sorties au Japon, donc on avait eu le droit à Kids Return, et puis juste après, Hanabi. Et Hanabi vraiment a été la grande consécration du cinéaste, récompensé, c'était à Berlin, il me semble, ou à Venise ?
Venise,
voilà. Tout de suite. C'est le nouveau maître du cinéma japonais, le cinéma indépendant japonais. Il était établi, on commençait à en connaître un peu plus sur le personnage, notamment aussi parce qu'on voyait ses peintures. Il y avait aussi une presse spécialisée, notamment la revue HK qui a commencé à publier, je pense, vers 97. Qui a commencé à faire vraiment les articles de fond dessus, qui ont parlé vraiment de ses premiers films, il les a y vus, donc on apprenait...
Ils les ont édités par la suite, d'ailleurs.
Voilà, exactement, donc on a eu droit à Violent Cop, qui sortait un peu avec du retard, mais voilà, on pouvait enfin découvrir les premiers films, Boiling Point, même Getting Any, qui est sorti en salle, quoi. C'est vraiment... C'est la grosse farce un peu scatologique de Kitano, et on pouvait le voir dans des grandes salles parisiennes, quoi. Donc,
ce qui est étonnant, c'est que ça ne correspond pas à l'image de Kitano, que les Japonais avaient de Kitano. Je ne sais pas si quelqu'un veut en parler, Nicolas.
Tu veux dire quelle image que les Japonais avaient de Kitano,
en tout cas de
la façon dont il,
la façon dont il percevait ses films et dont il percevait le personnage
en dehors du Japon,
de Kitano.
Ouais. Ouais, là-dessus, c'est sûr, c'est qu'il y a une grande contradiction, en fait. Depuis le début, il y a la façon dont nous, on l'a vu on a vu les premiers films, c'était pas du tout avec le même regard que les Japonais quand ils ont découvert les premiers films de Kitano.
D'ailleurs, Jean-Pierre Dionnet, l'homme grâce à qui on a pu découvrir en France Kitano, racontait dans des interviews que quand il était allé au Japon et qu'il a découvert dans les bacs, un DVD, enfin, c'est pas un DVD, il y a une cassette à l'époque, et la jaquette lui plaît, il regarde le film à l'hôtel. Il se jugue, il va voir les responsables, enfin, du moins les distributeurs, il fait c'est là, j'achète tes droits, filez-le moi, je fais absolument des co-. Et on lui dit, mais sérieux, qu'est-ce que vous faites avec ça, quoi? C'est genre, le mec, c'est la gaffe chez eux, hein, faut bien savoir. Hein. C'est un amuseur public, hein, c'est vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les extraits de ces émissions, c'est vraiment, c'est très potache, quoi. C'est l'amusement populaire, un peu. C'est pas très légion, mais. Enfin, si, un peu pour nous, mais.
Pour eux, moins, peut-être, en fait.
Oui,
parce
voilà.
Qu'il y a un humour japonais, quand même, qui. Dans ce sort de.
En plus.
C'est scatologique, ou des choses comme ça.
Alors que nous, on voit ça avec l'espèce d'exotisme, et en plus, voilà, les Japonais, ils vont quand même assez loin, des fois, dans l'humour. Donc là, on se dit, mais c'est pas possible, c'est ça, du grand écart entre, voilà, entre le clown et puis l'artiste, quoi. Et en plus, Alain Bi a apporté une nouvelle strate parce qu'on découvrait vraiment le peintre. Faut bien savoir, c'est qu'à l'époque de Kill's Return, il a un accident de moto, il est paralysé sur une partie du visage, il a fait une grosse dépression, il a voulu se suicider, ou du moins il a tenté. Voilà, comme exutoire, il a trouvé la peinture, donc il a commencé à faire des peintures très colorées, très naïves et tout, mais il émanait de.
Alors, bon, je crois qu'il parlait de son accident de moto comme une tentative de suicide. Hein.
Oui,
donc,
en plus.
Ouais, une véritable tentative de suicide, c'était plus métaphorique ou inconscient. Très bien.
Juste pour. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps, juste pour donner un peu une idée du personnage de Kitano, la façon dont il était connu et vu par les Japonais à l'époque. En 83, Furio, je crois, sort au cinéma, donc au Japon. Et il est déjà à ce moment-là un personnage vraiment très connu de la télévision, qui a des émissions. Je crois que j'ai cru voir aujourd'hui qu'il a 7 émissions par semaine encore aujourd'hui. Mmh. Et à l'époque, ils en avaient sans doute moins, mais il était déjà très connu. Et donc, c'est pas forcément un film très très drôle, Furio. Mais il y a quelques scènes où Kitano se met à parler en anglais.
Oui.
Et la salle entière explosait de rire au Japon. Mmh. Parce qu'il jouait justement dans ses émissions du fait qu'il n'arrivait pas à parler japonais, et du coup c'était pas quelque chose qu'on a perçu du tout, mais c'était une blague dans le film, donc Kitano qui parle avec un accent à couper au couteau, Merry Christmas, voilà, c'était très drôle.
Pourtant c'est lui qui donne le titre au film, quoi. Donc son personnage, Lieutenant Hara, est vraiment l'un des socles de. Pourtant il est entre deux immenses stars, David Bowie et Ryuji Sakamoto. Et voilà, il est quand même dans une région haute, quoi.
D'ailleurs, c'est resté, en fait, c'est parce que au Japon, il fait des publicités pour une école d'anglais. C'est-à-dire qu'il finalement, il représente le japonais qui voudrait apprendre à parler anglais, en fait. Il a cette image-là, en fait, du japonais qui parle anglais.
En même temps, après Battle Royale, j'aimerais pas trop l'avoir comme prof. C'est une image pour une école japonaise. Mais donc, c'est vrai qu'il a cette carrière dans les années 70, d'abord de comique, puis de présentateur télé.
Il avait aussi, faut bien savoir, par contre, c'est très rare et quasiment invisible. Il a joué dans un film de Bokamesu dans les années 80, qui était tourné en France.
Ouais, il est sorti en DVD depuis.
Oui, voilà. Okamatsu renie quasiment ce film en disant ne le regardez pas, c'est vraiment de la merde. Je ne l'ai pas vu, mais semble-t-il que c'est vraiment une double.
Et c'est vrai qu'il avait cette carrière d'acteur un peu plus dramatique, et tout d'un coup, on le retrouve comme réalisateur de Violent Cop en 89. Est-ce que quelqu'un veut raconter comment il s'est retrouvé dans ce poste de réalisateur?
Je peux continuer là-dessus. Il s'avère que il avait été casté pour jouer justement le personnage de l'inspecteur assez violent, voilà. Et c'était Fukasaku Kenji qui était qualité comme réalisateur. Et alors, il s'avère que il a été enfin, est-ce qu'il est parti ou est-ce qu'il a été viré, on sait pas très bien. Je crois qu'il a peut-être des problèmes de santé. Mais bref,
il avait vraiment des problèmes de santé.
Et tout ça. Et pour pas que le film tombe à l'eau, Kitano s'est proposé. Il a dit, bon, moi, je veux bien le réaliser. Toute la pré-prod a été faite, le script était là, le casting et tout. Et donc, il a pris des manettes. Mais bon, il n'avait jamais réalisé, peut-être à part ses émissions télé. Donc voilà. Et en gros, il s'avère que les... ces techniciens ne prenaient pas trop au sérieux. Donc le premier jour de tournage, je crois qu'il a débarqué déguisé en samouraï. Voilà. Et alors, bon, il y a toujours le côté Pocahontas, peut-être qu'il revient, mais je pense qu'il a voulu surprendre un peu ses collègues et les techniciens, et puis imposer une forme d'autorité. Et finalement, il a une mise en scène très épurée, assez statique, mais voilà, il sait tenir un récit, son personnage est très fort. Et puis il apporte déjà une personnalité avec voilà cette espèce de musique très très la ritournelle de Eric Satie voilà on voit déjà tous les prémices de son cinéma dedans quoi.
Oui, mais il a fait une chose aussi qui était intéressante, c'est que il a repris le scénario du film, il l'a complètement changé et le personnage est devenu une espèce d'anti-héros, ce qui n'était pas dans le scénario original de Fukuzaku. Et donc il a c'est pour ça que je pense pas qu'il s'en est tenu au récit, au contraire il l'a complètement modelé à sa propre personnalité et ça annonçait après peut-être la filmographie que l'on connaît.
De toute façon, Fukasaku lui sont vrai sur Montal puisque pour son dernier long métrage, Fukasaku l'a cassé pour l'un des rôles principaux, c'est vraiment Battle Royale quoi.
Il a tout de suite abordé sa patte, ouais c'est sûr. Ouais.
Déjà d'avoir changé la personnalité de son personnage, de l'avoir plutôt transformé en une espèce d'anti-héros un peu solitaire, toujours violent. Ça commence déjà, ça me fait penser à Nabi, ça me fait penser à tout ça.
Mais c'était le premier film, après il faut imaginer comment il a été perçu au Japon en sortant ce film, sachant qu'il venait au départ de la scène, ensuite de la télé, comme comique, et il fait ce film en fait.
Je pense qu'en fait, ce film
a été mieux accepté. Il a apporté des choses de son univers, il y a des scènes d'humour, il y a un côté...
Mais dans tous ses films,
depuis le début. Le projet, après, bon, ça reste que c'est pas son univers, c'était pas son monde à l'origine.
C'est ça qui est encore plus exceptionnel.
Mais je pense qu'au départ, le film a peut-être pu être mieux accepté à condition qu'il soit réalisé par Fukasaku. Fukasaku, c'est quand même un cinéaste qui était encore très populaire, qui fonctionnait encore bien dans les années 80. Bon, son cinéma n'était pas aussi bon que ses grands films de Yakuza. Mais bon, voilà, c'était encore un technicien chevronné. Le public aura plus accepté de voir un personnage populaire comme Kitano jouer, mais le voir comme réalisateur, je pense que ça a tout de suite mis une forme de distance quoi.
Le film a d'ailleurs été un échec commercial au Japon, tout comme tous les premiers films de Kitano, quoi qu'il essaye de faire, c'est-à-dire que Son of the Sea, qui est un film très contemplatif, ça ne marche pas. Il faut vraiment attendre d'un côté la reconnaissance européenne pour qu'il y ait une reconnaissance critique au Japon, et ensuite, bien plus tard, on en parlera un peu plus tard, Zatoichi, pour qu'il y ait une vraie reconnaissance du public de Kitano, réalisateur. Et c'est vrai que dès ce premier film, on a tendance, et après par les films qu'on a découverts par la suite, qui sont Sonatine, Hanabi d'abord, puis un peu après Jugatsu, à considérer Kitano comme le spécialiste du film de Yakuza, le cinéaste de la violence, qui est une image qui lui a d'ailleurs collé à la peau. Pourtant, on en a un petit peu parlé, la veine humoristique du film de Kitano est très présente en termes de volume, elle représente presque la moitié de ses films, de sa filmographie, voire une veine mélancolique avec Son of the Sea ou Dolls. Et là, on va rentrer dans la deuxième partie de ce podcast, qui parle de ses thématiques, plus de ses films des années, de ces années 90. Qu'est-ce qui unifie, outre cette violence auquel on rapproche trop souvent Kitano, la filmographie de Kitano, qui est extrêmement variée dans les genres qu'il emploie?
Moi, si je dois un petit peu synthétiser ce qui m'a marqué dans son cinéma lorsque je l'ai découvert à la télé dans les années 90 sur Arte, c'était ce sentiment qu'un film était avant tout un terrain de jeu. Alors certes, il y avait beaucoup de violence, c'était des yakuza entre eux qui réglaient leur compte, mais ils trouvaient toujours le moyen de créer des scènes purement récréatives. Voilà quoi, il y avait une envie de présenter ces hommes de main comme aussi de grands enfants. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment séduit dans cette esthétique-là. C'est des plans effectivement très cadrés, il y a une vraie géométrie du cinéma de Kitano, quoi. Pour un guignol, il faut reconnaître qu'il a très vite eu un souci du cadre, enfin je crois qu'il avait vraiment tout compris au cinéma à la rythmique d'une scène, d'une séquence. Et ce que j'aimais, c'est ça, c'est la manière dont il réussissait à restituer ce qu'il faisait peut-être déjà à la télévision dans le cadre d'une supposée grande œuvre, dans du supposé grand art. Pour moi, la violence est presque l'aboutissement du jeu d'enfant, c'est-à-dire que le but n'est pas forcément de faire un film hardcore, mais de montrer à quel point, lorsque le jeu va jusqu'au bout, et ben ça va forcément aboutir à une sorte de dérapage, à une gifle, à une claque, et puis peut-être ensuite à la montée de quelque chose. Donc voilà, c'est ça que j'ai toujours bien aimé dans le cinéma de Kitano, c'est cette espèce d'ambiguïté, cette capacité à jouer sur deux tons différents, quoi. On ne sait jamais trop sur quel pied danser. Donc voilà, pour moi en tout cas, dans ces grands films des années 90, Jugatsu notamment, où tu vois une scène où des personnages chotillent, enfin je sais pas, et ils tournent sur eux-mêmes, enfin voilà, il y a des séquences comme ça qu'on ne saurait pas vraiment définir, mais qui nous saisissent, qui nous captent comme ça par la gratuité.
C'est vrai qu'il garde pas mal ça, qui vient sans doute de son métier de comique et de la télévision, cette construction en sketch, hein. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont unifiées sur un sketch avec dont on voit la chute qui vient souvent d'ailleurs avant d'ailleurs ce qu'il a provoqué. Et cet esprit récréatif du cinéma dans tous ces films, il y a une suspension du récit à un moment. L'exemple le plus frappant, c'est un de ces derniers grands films pour moi, qui est L'été de Cupidgéro, où le film s'arrête au bout d'une heure. C'est un petit garçon qui va retrouver sa mère. La mère a refait sa vie, on le sait, et finalement le récit change de direction, c'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter pour distraire ce petit garçon et jouer sur la plage. Et c'était déjà la structure d'Alambi, où il y avait ce parcours avec
les feux d'artifice, finalement, le cerf-volant.
Effectivement, qui après le braquage servait une espèce de récréation, mais qui devient le moment où la narration s'arrête, devient le centre du film. Et c'est ça qui fait, à mon sens, vraiment une de ces spécificités des films de Kitano des années 90.
Mais moi je me souviens très très bien, parce qu'on parlait de ça, qu'est-ce qui a fait que dans les années 90, que Takeshi Kitano soit considéré comme un cinéaste important, c'est vraiment le mot, enfin, je m'en souviens très bien, dans les articles, il y avait les Inoccupibles aussi, on parlait beaucoup de ça dans les Inoccupibles, et l'adjectif important revenait souvent. Mais moi je me souviens très très bien de cette période-là, quand on découvrait ces films dans le désordre, et on était extrêmement surpris de voir autant de films comme ça qui arrivaient, parfois ça pouvait être deux films dans l'année, on ne comprenait pas trop comment ils faisaient, et en fait on s'apercevait que c'était des films qui venaient depuis, enfin qui avaient été faits depuis assez longtemps, donc on les découvrait.
C'était le cas pour Kurosawa aussi, par exemple.
Exactement.
C'est là qu'on a découvert à la même période.
Voilà,
même
temps que Wong Kar-wai aussi.
Mais moi, par rapport à Wong Kar-wai, je pense moins avec Wong Kar-wai qu'avec Kitano Kino, c'était vraiment comme ça une espèce on nous jetait en plein visage pas mal de films de Kitano, on comprenait pas d'eau, mais on les voyait, c'était très les sorties des films de Kitano dans les années 90, c'était extrêmement importante. Et il y avait une chose qui revenait souvent, c'était dans un film de Kitano, il y a soit on s'attend, on sait pas où l'on va, et puis surtout il ne faut jamais, c'est ce que je me rappelle très bien de ça, ne jamais se baser sur le synopsis, parce qu'en fait le synopsis ne sert à rien. Parce qu'à un moment ou à un autre, il va exploser en mille morceaux, et on va se retrouver dans des situations, dans des endroits, il y a une géographie comme ça qui explose, qu'elle soit au niveau du récit, même au niveau physique, et c'était ça qui était très très intéressant. Et enfin, moi, je sais qu'à l'époque, j'avais plutôt 20 ans, et c'était la première fois que je voyais ça à l'intérieur d'un film de genre. Voilà. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que si ça n'avait pas été dans un film de genre, comment ça aurait été perçu? Mais je me souviens très, très bien que c'était des moments comme ça qui nous frappaient, et on découvrait, et là, c'est pour la petite anecdote. J'étais à la fac à l'époque, en deux arts du spectacle, option cinéma, et je me souviens très bien avoir eu des conversations interminables avec mes professeurs qui, eux, ne comprenaient pas. Non, eux réfutaient complètement ce cinéma-là, le cinéma de Kitano, qui était pour eux plutôt un cinéma d'exercice de style. Maintenant, les choses ont complètement changé, complètement progressé, et je sais que les mêmes profs écrivent des choses très intéressantes sur ces films. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça qui... Après, on y reviendra, je pense, enfin, j'insisterai là-dessus plus tard, mais c'est aussi un cinéaste d'une génération. Et ça, c'est très important d'en parler, la génération des années 90, parce qu'il y a aussi... Moi, on en parlera un peu plus tard, mais le positionner aussi au sein d'un cinéma qui s'est fait à ce moment-là, et avec ses contemporains, mais ça, on en parlera. Voilà, donc c'était...
Oui, ça peut faire le pont justement quand tu parles d'exercice de style, qui est un reproche qu'on pouvait faire à l'époque, alors que moi j'avais pas entendu justement à cette période où on découvrait les Kitano, et de revoir les films aujourd'hui, à quel point, et ça on va en reparler aussi quand on va voir la deuxième partie de sa filmographie, à quel point il croit en ses personnages. Les gamins de Kids Return, il est avec eux, il les suit, ce sont des personnages qui sont écrits, qui existent, y compris le gamin de Kikujiro qui doit dire 4 phrases dans le film. C'est un personnage qui existe et dans lequel il y a une vraie croyance dans le personnage. Et c'est pour ça que ça dépasse vraiment l'exercice de style. Et que ça me semble bizarre comme argument. Ça me semble très bizarre.
Le personnage de Jogatsu aussi, enfin son deuxième film, enfin le premier film qu'il scénarise, qui est un loser. Qui ne sait pas jouer au baseball, limite autiste, qui ne parle pas, qui n'a pas d'amis. Il lui offre une aventure incroyable quand même. Enfin, le film se retourne à la fin.
La chute est quand même...
assez intéressante. Mais oui. Pour pas trop
non, spoiler. Non, il ne faut pas spoiler, mais vraiment, là, pour le coup, c'est
un gros pied de nez. Quoi. Là, Jugatsu, c'est... Viens, toi, gamin, qui traîne, là, qui n'a pas d'amis, je vais te faire un tour du Japon, je vais te faire voir des Yakuza, tu vas voir, ils vont baiser des nanas, ils vont tirer avec des flingues. Enfin, c'est... Là, j'ai revu Jugatsu il n'y a pas longtemps, je ne me souvenais plus du tout à quel point... Là, c'était vraiment... c'est l'illustration parfaite de ce que tu viens de dire. Il croit en ce personnage, il ne le lâche jamais, et il va jouer dedans, lui, Kitano, un Yakuza, mais complètement débile.
Qui arrive assez tard en plus dans Dracy. C'est vrai qu'à l'époque, je n'ai pas revu Jugatsu par exemple, mais c'est vrai que j'attendais, quand il est sorti, on avait déjà vu des films de Kitano, et on attendait Big Takeshi. Ouais. Il devait arriver en tant qu'acteur. Dans Jugatsu, mon souvenir, c'est qu'il arrive très tard.
Il arrive à la moitié, il est complètement bancal. Tout le film tombe autour de lui, enfin tombe à cause de lui, ça s'écroule complètement. Il est entouré il a un bras droit qui est complètement nul, mais enfin, on en reparlera aussi, hein, le clan Yakuza comme une famille possible, mais forcément impossible. Mais Jugatsu, c'est vraiment. J'ai revu juste avant de présenter le podcast, Jugatsu, je ne me rappelais pas à quel point il était au niveau de son team, d'un avis.
C'est important.
Très important, oui. Ouais. Très très important.
Mais il y avait de toute façon une progression dans son cinéma qui était assez fulgurante. Et vu que nous, on a connu ça sous un temps assez ramassé, c'était une espèce d'explosion, c'est le feu d'artifice, en effet. On peut dire que c'est un peu comme les Sakura, vraiment, c'était une très courte époque, on les voit fleurir, et puis la chute a été assez rapide, quoi. C'est vraiment plus ce qu'il est.
Après, je reviens sur la façon dont il était perçu au Japon. En fait, justement, il y a eu cette évolution-là, jusqu'à Sonatine. Et après, finalement, c'est quoi? C'est après, avant Kids Return, je crois. Il fait Gatinani, en fait. Mmh.
Mmh. 94, oui. Kids Return 96.
Hein. Et donc, j'ai le sentiment qu'il a fait ça. C'était pour le public japonais qui n'avait pas accroché depuis le début, en fait. Il leur fallait la comédie, Kitano, dans l'esprit de son humour des années 80. Et peut-être que finalement, en fait, ce film, après, ça rejoint ce que tu disais, Samir, peut-être dans celui-là aussi, quelque part. Et c'est là qu'il a développé, il a affiné son style quand même. C'est un film qui a un humour vraiment, on disait, eschatologique.
Ah oui, ça fait clair.
Ça va très loin.
Il est déguisé comme un mouche à merde, faut bien sûr. Il s'est fait écraser par une tapette de chien.
Un personnage qui a été dédoublé, je sais plus. Il y a une modification génétique, en fait, il se transforme en homme-mouche. Ouais. Du coup, il y a un général de Tokyo qui a repéré dans le ciel l'homme mouche qui vient d'arriver et qui survole au-dessus de Tokyo. Et pour l'attirer, il décide de réunir tous les excréments du Japon pour fabriquer un gros tas d'excréments en se disant que la mouche va venir se poser dessus pour pouvoir l'écraser.
Avec presque pas ça encore.
Là, il va quand même. Mais ce film-là, c'est le film quelque part. Mais c'est impossible de savoir où il va nous mener. Ce film est découpé comme des petits sketchs. Ouais. Donc je pense que en fait son style vient clairement de son expérience de comique. C'était des petits sketchs qu'il a mis bout à bout. Et il a écrit ses films de cette façon.
Et la structure de Kikujiro est la même d'ailleurs. C'est découpé en chaînes.
C'est ça. Il y a un titre. Pour ça qu'il y a un synopsis très général, un fil rouge. Mais là-dessus, chaque séquence est vraiment assez autonome. C'est le plus fou. Je pense qu'on le reconnaît bien dans sa comédie de l'époque. On voit bien son style, vraiment. Et alors que les autres films, peut-être qu'il là-dessus, il met une autre image, en fait. Il le développe d'une autre façon, parce qu'il le développe dans le film de genre. Il ne le voit pas dans le monde de la comédie, mais dans, avec une autre image. On le voit. Et peut-être que. Bon. Comme je disais, depuis le premier film, il a eu un peu une contradiction. Il vient de la comédie. On lui a. Il est un peu tombé dans le film de Yakuza, avec toute l'histoire qu'il y a eu sur le premier film.
Son père a dit Yakuza.
Il a continué là-dessus. Je pense qu'il a dû se dire que ça l'intéressait. Il a dû trouver quelque chose à creuser de, dans le filon. Mmh. Jusqu'à cette comédie, Getting Ready, où là, je pense que c'était pour faire plaisir, voilà, peut-être au public japonais.
Alors,
là-dessus, il va... Je pense que c'est, en fait, après Kids Return, et finalement, Hanabi, là-dessus,
Hanabi est
à
juste
partir
après,
de là. Donc, c'est un petit peu après qu'il a la, vraiment la grande reconnaissance internationale, en fait.
Mais est-ce qu'il a eu du à succès avec Getting Ready?
Non,
mais par contre, là, on reviendra plus tard, on parle du dernier film. Getting Ready, il a dit lui-même que c'est un des films que lui-même préfère.
Ouais. Dans sa
photographie. Donc, alors, c'est son
je
style.
Je pense que ça fait c'est partie aussi de. Enfin, excuse-moi.
Pas forcément. Moi, je pense qu'il est sincère vraiment en disant ça. C'est sa formation, il vient de là vraiment. Ouais. C'est son vrai style. Mmh. Il est le plus sincère peut-être en faisant ce film.
Alors, je dirais qu'il faut faire très attention à ce que dit Kitano en interview parce qu'il a tendance à dire une chose et son contraire assez rapidement.
Oui, il est très déstabilisant.
Très ambitieux à assumer.
Moi, j'ai lu dans une interview qu'il considérait que Getting Ready était raté, qu'il avait offert quelque chose de très ambitieux et que finalement c'était parti.
Ça dépend peut-être à quelle époque il l'a dit. Ça a évolué peut-être assez rapidement.
Si je peux juste revenir sur le rapport de comment dire de Kitano avec la presse. Moi, je me souviens très bien. C'était à l'avant-première de Zatoichi. Et était venu, il était complètement là, il disait je viens de passer tout l'après-midi avec les journalistes français, il dit mais je sais pas ce que vous avez, mais alors vous faites des interprétations de mes films, mais je comprends pas, c'est voilà, c'est la mère, donc tout de suite l'enfant, le machin, la matricielle et tout ça, je sors ce que les gens veulent dire, et il fait voilà pourquoi je tourne à la mère, parce que j'aime ça. Voilà.
Oui, mais quand il y a des documentaires de Jean-Pierre Limousin,
il explique bien.
Voilà, je te laisse terminer.
Non, mais c'est ça qui est aussi complètement déstabilisant et génial c'est que il joue avec tout le monde.
Ah oui,
il
bien sûr.
Il fait tourner tout le monde. Et dans le Limousin, il parle justement de rapport à la montagne, la mer.
Ouais.
Pourquoi la mer dans tous ses films. Et le côté matrice. Ça, c'est lui-même qui le dit, je pense que. Peut-être aussi, il le dit au départ pour faire plaisir à Jean-Pierre Limousin qui vient faire ce trajet pour une interview. Du coup, il lui dit un peu ce qu'il veut entendre. Mais il a l'air quand même assez malin pour.
N'oublions pas qu'il avait joué dans Tokyo Eyes,
qui était
très bien d'ailleurs.
C'était pas mal du tout.
Et puis, il a cette séquence dans le documentaire de Limousin où, je ne sais pas, peut-être que tu me le rappelleras, mais à un moment, il se retrouve avec une espèce de. L'universitaire peut-être, je ne sais plus, où ils ont une conversation comme ça très intéressante sur les films. Et à un moment, ça dépasse un peu le cinéma, ça vient sur la philosophie. C'est comme s'il rencontrait un peu Gilles Deleuze et qu'il discutait avec lui. Et là, pour le coup, tu le vois super humble, il rigole pas trop, il se lâche. Et on sent que c'est quelqu'un qui en même temps... Enfin, c'est le vrai Takeshi Kitano, peut-être qu'on ne connaît pas, ou peut-être même que certains, que même peut-être le Japon ne connaît pas. Et là, il est vraiment lui-même et on sent que c'est quelqu'un qui, à mon avis, est très content d'avoir fait ces films pour dire aussi que j'ai une autre facette. Ce documentaire m'avait énormément marqué à l'époque parce qu'il était super humble, d'une maturité extraordinaire. Il avait une manière de parler du cinéma. En fait, il ne parlait jamais de cinéma vraiment. Il parlait d'autres choses, de la vie. Et c'était très intéressant. Il faisait comme ça des espèces de petits ponts avec sa propre vie, mais aussi le quotidien de son entourage. Et c'est un... Voilà. Donc, pour le coup, j'ai envie de te dire que cela, sur Martin, j'ai envie de te dire que oui, dans le doc de Limousin, j'ai l'impression qu'il est vraiment. Après, l'histoire de vous, les Français, vous avez une manière d'interpréter. Ouais, voilà. Tu parlais de Hawks hors podcast. Hawks était le champion du monde pour dire vous voyez des choses extraordinaires dans mes films, comme des homosexualités latentes, mais j'ai jamais fait ça. Mmh. Alors que, enfin voilà, après, plus tard, Hawks avouera qu'il aimait bien travailler sur l'identité sexuelle et autres.
Mais juste, on n'a pas parlé de scène aussi. Du coup, scène aussi qui a quand même aussi touché. Je sais pas s'il avait fait beaucoup d'entrées, s'il a eu un grand succès ou pas. J'avais entendu justement une interview de lui qui est venue après, qui expliquait que scène aussi, il était content de ce film. Enfin, voilà. Mais il n'était pas allé assez loin et il s'était arrêté parce qu'il s'ennuyait en fait. Au moment où il s'était ennuyé, du coup, il avait arrêté. Enfin, il avait fini son truc. Et c'est aussi sa façon un peu de, enfin voilà, un peu de prendre ça par-dessus l'épaule. Enfin voilà, je fais du cinéma, mais bon, je fais de la peinture, mais en fait non, je fais des gribouillages dans les chiottes. C'est ce qu'il dit lui-même. Je crois que, enfin, il a, je sais pas s'il en joue, sans doute énormément, mais il se déprécie aussi énormément.
Et ça dépend à quelle période, parce que le documentaire de Limousin, pendant le tournage, j'ai été Kikujiro, et il fait beaucoup de peinture à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il considère que la peinture est un art presque plus noble que le cinéma, et qu'il fait du cinéma pour s'amuser, et qu'en fait, il est vraiment peintre et il se voit en artiste, alors qu'il a commencé la peinture assez tardivement, après 94. Donc il y a toujours cette ambiguïté dans le rapport au grand artiste, mais en fait, il est uniquement amuseur, et il n'ose pas trop avouer qu'il fait des grandes œuvres.
Et c'est ce qui rend intéressante sa période un peu décriée avec cette fameuse trilogie de la déconstruction. Pour moi, cette trilogie, elle n'existe que pour tout simplement jouer avec son image, notamment dans un film comme Blurry to the Filmmaker, où il en vient carrément à théoriser l'idée de faire un film. C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait aller dans cette direction? Est-ce qu'on devrait aller dans cette autre direction? C'est-à-dire qu'il joue avec ce qu'il peut faire, avec ce qu'il sait qu'il peut faire, qui pourrait plaire ou non. Et pour moi, c'est un cinéaste qui a toujours été un peu conscient de ça, de la facilité avec laquelle on peut aussi bien séduire que décevoir. Et pour moi, ce rapport un peu déceptif au public, au cinéma, à la représentation, fait partie intégrante de la méthode Kitano. C'est comme si après son film Hanabi, oui, qui a été considéré comme un chef-d'œuvre absolu, comme ce que veulent voir les festivaliers en matière d'esthétique, il s'était dit, effectivement, les critiques et tout ça, si on revenait un petit peu en arrière, si on leur offrait l'antithèse de ça. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est cette capacité vraiment à jouer un petit peu avec l'attente, quoi. Pour moi, c'est un cinéaste extrêmement conscient, extrêmement intelligent, et qui a peut-être de par sa carrière de comique, qui a un incroyable sens du public, qui a un incroyable sens de la perception extérieure sur son travail, quoi. C'est pour ça que pour moi, un ratage de Kitano n'est jamais totalement innocent. C'est pour ça que c'est toujours intéressant.
C'est la poétique des auteurs.
Quoi ?
C'est la poétique des auteurs, finalement, ce que tu...
Ouais, mais je pense que lui, pour le coup, c'est vraiment l'auteur totalement assumé, quoi. Il y a vraiment une hyper conscience dans son travail.
Ouais, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord, mais après, on en reparlera, sur le déclin, la chute dont tu parlais, Martin.
Moi, j'avoue, honnêtement, Hanabi, en fait, dès qu'il a eu vraiment la reconnaissance internationale, il s'est passé quelque chose, et je pense qu'il a compris qu'il pourrait... Enfin, il a atteint un sommet qu'il pourrait plus.
C'était peut-être qu'il jouait avec son image, il ne voulait peut-être pas ça en
non,
fait.
Non, parce que tu sentais. Donc il veut casser Giro qui fait juste après. Tu vois que, quand même, dès qu'ils vont parlant, il est quand même beaucoup plus à l'aise dans son cinéma. Il y a plus de mouvements de caméra, des choses comme ça. C'est beaucoup plus léché et tout. Mais par contre, il est en train de... Enfin, son cinéma est en train de se diluer. Juste après, il fait sa première apparition... Enfin, sa tentative américaine. Aniki, qui est complètement ratée. Enfin, voilà, quoi.
J'avais beaucoup aimé à l'époque, justement. Je ne l'ai pas revu.
Non, vraiment, c'est pas bon du tout, quoi.
C'est vrai qu'on va... Je vais présenter la troisième partie du podcast. Quoi. On va revenir peut-être sur les thématiques après des films des années 90. Mais c'est vrai que jusqu'en 99, en tout cas, l'été Kikujiro, qui a quand même aussi été un succès en France, en Europe, il y a eu une très bonne presse. Donc Kitano est adulé par la critique. Le public occidental va voir ses films. Il commence à avoir un succès d'estime au Japon. 15 ans plus tard, Ryuzo Seven... qui est sorti en avril dernier, va être le second film après Outrage Beyond, qui ne sortira certainement pas en salle en France, après 8 films, donc depuis Aniki, sur lesquels Kitano a commencé à décevoir son public, et à la fois critique et à la fois public. Donc je repose la question, qu'est-ce qui s'est passé justement entre Kikujiro et Aniki, mon frère, pour arriver aujourd'hui à Ryuzo Seven?
L'autodestruction.
Ouais, je pense qu'il est. Comme on dit, c'est un auteur conscient, et je pense qu'il était conscient d'avoir atteint un sommet. Et il a cherché d'autres manières de s'exprimer. De toute façon, il a fait vraiment un dilettante quand il a réalisé Aniki, mon frère. C'était une production américaine, mais bon, voilà, il refaisait. C'était l'autocitation.
Il refaisait ce que beaucoup de cinéastes aussi faisaient.
Voilà, exactement. C'est... Qui, à un moment, qu'est-ce que vous attendez de moi? Bah voilà, des yakuza, de la violence, une chose très critique.
Exactement. Voilà, c'est voilà. Ça. Il l'a fait pour le public.
En fait, il a fait un remake de ses propres films. Comme quoi, aux États-Unis, c'est comme ça
que ça marche. Oui, c'est comme ça que ça marche. Mais il l'a fait, bon, un peu.
Mais aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, il a un sens du public très fort. À ce moment-là, il a estimé qu'il fallait faire un film pour les Américains. Comme il avait fait la comédie pour les Japonais.
Non, c'est pas lui qui l'a demandé. On est allé chercher. Il a accepté.
Il a accepté. Non, mais je veux dire, il a accepté. Donc voilà. Il était d'accord pour ça.
Mais oui, il y a un côté très cynique dans ce film qui est assez déplaisant, je trouve.
Bah, c'est ça, c'est des films déplaisants. Parce que pour Aniki, mon frère, qui est effectivement un film pas noble dans la forme, ce qui est intéressant, c'est cette espèce de critique des communautés qu'on voit dans la plupart des films américains. Il y a les gangs de noirs, il y a des gangs, je crois, de latinos. Mmh, mmh. Il va vraiment jouer du melting pot. C'est ça, il va jouer avec ça, avec cette chose, et il va. C'est comme s'il s'amusait à désaturer, à raturer totalement, à aller vraiment au bout du concept, vraiment pour faire un film assez
vivant. Il y a quelque chose de très excessif, toujours chez Kitano. La trilogie, en fait, finalement, sur la création, le film Glory to the Filmmaker, il va le plus loin possible, en fait.
C'est ça.
On parlera de son dernier film. Pour moi, je dis quand même que là où il a été le plus loin dans son côté comique, en tout cas, c'était dans ce film, en fait. Le dernier film est quand même vraiment bien en dessous des délires qu'il a fait à cette époque.
Parce qu'on parlait de cinéaste d'une génération, mais je me rappelle que la sortie d'Aniki a été faite quand même en grande pompe en France. Il y avait des affiches partout, c'était le nouveau Kitano, c'était le Kitano américain, alors que le film n'a pas grand-chose d'américain, mais c'était quand même un film qui a été vu par le public européen, un peu par le public américain, pas beaucoup, et un tout petit peu par le public japonais. Juste après, il fait quand même Dolls, qui est complètement différent et qui reprend... vraiment à rebrousse-poil toutes les attentes qu'on pouvait avoir de Kitano. C'est-à-dire que s'il faisait de l'autoparodie dans la violence dans Aniki, il va dire dans Dolls, je suis capable de faire autre chose. Je crois que Dolls, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais je crois qu'il y croit encore. Il croit encore au cinéma dans Dolls, il croit à son projet. C'est plus le cas, je pense.
Dolls, c'est très très beau, mais on a l'impression de voir un film financé par l'office de tourisme japonais.
Mais tu sais, Takeshi Kitano, il me fait penser à ces cinéastes hollywoodiens, ces vieux bougons du cinéma hollywoodien comme John Ford, comme William Wheeler, etc., qui avaient cette tendance, quand on leur posait la question, la fameuse question qu'on a posée à John Ford, c'est comment vous êtes venu à Hollywood? Par le train. En fait, voilà, et qu'est-ce que vous êtes qui? Vous êtes, je suis John Ford, réalisateur de Western. En fait, c'est ça qui m'intéresse beaucoup chez Kitano, c'est que c'est quelqu'un qui peut conjuguer un film avec une espèce d'ambition commerciale, et à côté de cela, il va te donner ensuite une espèce d'intimité très particulière. Ce que faisait Ford aussi, où parfois on lui demandait de faire tel film, il avait un succès énorme avec ce film-là, et juste à côté, il faisait un petit succès d'estime avec un petit film. Il y avait eu le Massacre de Fort Apache, il y a eu un carton, puis ensuite il a fait Steamboat Around the Bend, qui est un petit film très peu connu et qui est l'un des chefs-d'œuvre de John Ford. Et c'est ça qui, en fait,
mais
il est dans une industrie.
Mais c'est pas un des chefs-d'œuvre de Kitano.
Pour moi, je trouve que c'est un des plus beaux films de Kitano.
Dolls.
Ah oui. Moi, à l'époque, j'avais été, et je l'ai revu il y a une semaine, et je continue encore à le défendre. Ce que j'aime bien chez Kitano, c'est cette espèce d'industrialisation du cinéma. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à croire, voire même aller à accepter, si je suis dans la mauvaise foi, que Kitano ait un moment perdu tout espoir envers le cinéma ou quoi que ce soit. Non, moi, pour moi, ça n'est pas du tout ça. C'est qu'il y a un moment... Il y a aussi une génération qui s'est... Je vais essayer d'être cohérent. Tu parles d'un moment il fut un temps, ces films sortaient au cinéma. Et maintenant, et ça sera pour la deuxième fois consécutive, le dernier film va sortir en directement en DVD, si j'ai bien compris.
Ou ne pas sortir.
Donc ça veut dire qu'on pourra...
Pour l'instant, ça n'a pas du tout été acheté.
Donc on pourra peut-être trouver un jour sur Internet via le téléchargement. Bref.
On peut le trouver cet été.
Voilà. Donc ce que je veux te dire, c'est que...
Là, c'est la seule manière de le voir. Donc.
Peut-être que parce que aussi la génération de distributeurs, des exploitants des années 90 est totalement différente de celle d'aujourd'hui. Il y a ça aussi qu'il faut peut-être... étudier, analyser.
Si je puis me permettre, parce que je connais les raisons pour lesquelles Outrage Beyond n'a pas été distribué. Il s'avère que le premier Outrage est sorti en salle et après a été exploité en DVD par HK Vidéo. Les chiffres de la sortie salle ont été assez désastreux. En gros, voilà, on parle de les conséquences finalement de sa
Il est un peu introspectif. Bon, bah, il a perdu pas mal de gens en chemin, et du coup, ni la critique était un peu tiède, voilà, et les spectateurs n'ont pas vraiment suivi. Donc, il s'avère que quand le deuxième est sorti, qui est bien meilleur en plus que le précédent, Office Kitano passe par un intermédiaire, qui est une boîte dont je ne me souviens plus le nom, qui se charge en vérité de vendre les films à l'étranger. Et en gros, ils se sont engagés auprès d'Office Kitano de revendre au même prix que le premier outrage. Or, quand ils ont proposé ça à HK, il s'avère que il était hors de question pour eux qu'ils exploitent le film en salle, même s'il était bon et tout ça. Ils étaient d'accord pour le sortir en DVD, mais voilà. Du coup, ils ne voulaient pas mettre le même prix. Et du coup, Office Kitano a refusé de revoir ses tarifs à la baisse, et du coup, bah, il ne sort pas. Mais les Anglais, ils ont pas acheté, les Américains non plus, donc voilà. Et je pense que Kitano est en train de s'enfermer vraiment dans une bulle.
Je pense que c'est tout à fait vrai, du fait que après le succès en festival de Sonatine, d'Anabi, etc., il aurait pu faire des films en destination de l'Europe, qui ont un succès d'estime au Japon et qui marchent très bien, qui marchent très bien à l'international. Seulement, il a fait Zatoichi. Zatoichi a extrêmement bien marché au Japon. Il a fait par la suite Outrage, qui a très bien marché, la suite aussi. Et là, quand on voit son dernier film, c'est un film qui est vraiment fait pour le public japonais, qui ressemble à une comédie japonaise d'aujourd'hui et qui est fait pour le marché local. D'ailleurs, je pense que Kitano, actuellement, ne pense plus du tout à vendre ses films à l'international et qu'il travaille comme cinéaste industriel pour le Japon.
Mais c'est bien.
Et ce volet international.
Il revient sur tes acquis, c'est ça.
Mais je veux dire, ça me dérange pas, ça.
Sa première partie, il y a un retour vraiment, et c'est pour ça quelque chose un peu
sympa. Ce qui me dérange, c'est que ne plus pouvoir profiter en salle ou même en support chez nous.
C'est un autre point.
La France n'est pas le centre du monde cinématographique aussi.
Je vais remettre ça pour parler justement de Ryuzo Seven, le remettre dans le contexte japonais. C'est-à-dire que, à mon sens, le cinéma japonais d'aujourd'hui est assez frileux en termes de propositions artistiques qui sont assez fortes. Même quand on voyait Getting Any, on reconnaissait la patte de Kitano dans la composition des plans, dans la construction de certains gags qui étaient complètement inhabituels par rapport à ce qui se faisait dans les années 90 et même qui se fait aujourd'hui. Dans son dernier film, il n'y a plus rien qui peut rappeler le cinéma de Kitano, sauf l'autoparodie. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans du cinéma industriel japonais. Le film pourrait être filmé par à peu près n'importe qui. Le résultat serait le même. Il donne au public japonais ce qu'il attend. C'est pour ça que c'est pas forcément un défaut de pas suivre une carrière de cinéaste international reconnu en festival, mais ça peut être un défaut de juste répondre aux attentes du box-office local, et c'est à mon sens ce que fait Kitano depuis Outrage. Outrage Beyond, c'était intéressant parce qu'il le mettait en abîme dans le film, et là il perd à mon sens toute ambition artistique dans Ryuzo Seven. Je sais que Nicolas, tu n'es pas tout à fait d'accord.
Alors déjà je reviens juste un petit peu sur un petit peu avant. Si on revoit Glory to the Filmmaker, il expliquait déjà qu'il ne voulait plus te faire des films à la façon Hanabi, à la façon Kikujiro. Il l'avait expliqué. Il a fait. Si vous vous souvenez, dans Glory to the Filmmaker, la première partie du film, il y a un côté comme ça, mélancolique, nostalgique, avec des enfants. Et tout. Et il fait ça, et il finit cette première partie en disant non, moi je sais plus comment ça finit, mais en expliquant bien que c'était peut-être son projet, mais qu'il l'arrête, et il va commencer un autre film. Et là, notre film, il va partir dans des délires qui vont très loin.
On est dans sa tête. On est avec lui, là.
Il a expliqué clairement qu'il ne continuera pas. Ouais. Il ne le fera pas. Il ne veut pas continuer, apparemment.
Mais ça, c'est très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup Getting Any.
Dans le même film, il explique aussi qu'il ne voulait plus faire de film de Yakuza. Et ce qui fait que, quand même, deux films suivants, c'est Achille la Tortue, il fait Outrage, en fait, finalement. Donc, j'ai entendu aussi que Outrage, il explique. Non, Outrage, j'avais entendu une fois qu'il l'avait aussi fait pour le public américain. Les Américains lui avaient redemandé de refaire un film de Yakuza. Et il a, à l'époque de Aniki, mon frère, il a cédé et il aura encore livré un film de Yakuza. Il s'était dit à l'époque, je vais leur faire le film de Yakuza le plus violent possible, le plus radical.
C'est ça.
Comme ça, ça va les dégoûter. Ouais. Ouais. Ils ne me demanderont plus de faire le film de Yakuza. C'est pas ça ce qu'ils voulaient faire. Mmh. Lui, il voulait partir autre part. Maintenant, on revient sur le dernier film. Là, c'est sûr, il y a quelque chose. Il veut faire plaisir encore une nouvelle fois au public japonais, comme il l'avait fait avec Getting Any. Moi, je trouve que quand même, si on revoit le Getting Any, il y a quand même une grande évolution dans le domaine de la comédie pure. C'est-à-dire que finalement, c'est juste son deuxième film vraiment comique, où il ne va pas plus loin que la comédie.
Burlesque, tu veux dire.
Ouais, burlesque. Oui, burlesque. Il ne va pas plus loin que ça. Il ne faut pas aller chercher autre chose dans ce film. On est loin de... C'est forcément, on est loin de tous les autres films. On est du même niveau que celui-là, Getting Any. Ça ne va pas plus loin.
Ouais, mais dans Getting Any, je me souviens encore de certaines idées de mise en scène. Par exemple, il filmait, il y avait toujours ça dans ses films des années 90, il filmait la chute avant qu'on voit, qu'on découvre ce qui a provoqué cette chute. Par exemple, il y a deux mecs qui essayent de braquer, je sais pas, je crois que c'est pas une banque, hein, c'est genre un vieil entrepôt. Ils passent par le toit, ils lancent une corde en bas, on les voit descendre, on voit d'abord ça, et ensuite ils se retrouvent en bas, devant la porte fermée, et ils se demandent, maintenant on est là, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ils peuvent pas rentrer dedans, vu qu'ils ont ils sont juste passés par le toit, ils sont descendus. Ça, c'est un gag qui est absolument... Enfin, moi, que j'ai trouvé hilarant, qui marche très bien, qui est construit au niveau de la mise en scène. Dans son dernier film, il n'y a jamais ça. Il y a juste des gags que l'on voit venir à l'avance, qui font effectivement plaisir, parce qu'on s'attend à ce que les Yakuza formatés de Kitano fassent ça, et ça marche. Et en plus...
Il y a qui joue quand même beaucoup encore sur son idée de... Comme ça, voilà, des coupures, des ellipses... Dans les séquences,
mais ça marche pas.
Il y a toujours le dernier plan qui, ça marche toujours par chute. Le dernier plan va, voilà, finir la séquence d'une façon burlesque en fait. Sûr, c'est peut-être pas aussi radical que dans Getting Any, mais dans l'ensemble, Getting Any aussi, si on le revoit maintenant, Getting Any a un grand problème. Moi, j'ai trouvé qu'il avait un grand problème de rythme. Le film a quand même des moments où, des moments de pure burlesque, des moments très drôles. Et on va avoir pendant 10 minutes où il ne se passe plus rien. Oui, là, il n'y a rien d'amusant en fait. On ne comprend même pas très bien ce qui se passe.
Mais quand tu dis il ne se passe plus rien, c'est-à-dire qu'il ne se passe plus rien, il y a.
J'ai le souvenir que. Le récit avance, mais des scènes qui n'apportent rien et qui en tout cas ne sont pas drôles. Pour un film burlesque, c'est quand même un petit peu dommage en fait.
Mais c'est ça qui fait aussi.
Il y a un grand problème de rythme en fait, ce film. Il y a un problème de montage. Je me souviens qu'il y a des plans paraissent beaucoup trop longs, qui n'ont pas besoin d'être aussi longs en fait. Le rythme pourrait être beaucoup mieux maîtrisé à cette époque-là. Et j'ai trouvé que le dernier film, là-dessus, il a quand même réussi à profiter de toute son expérience, jusqu'ici de metteur en scène. Le rythme se déroule très bien. Le film s'enchaîne à merveille, en fait, beaucoup mieux que Getting Any.
Prenons notre exemple sur Rivendo 7, et après on va revenir sur sa filmographie. Il y a une scène où il a une idée de mise en scène. Il y a les Yakuza qui sont tous en cercle, ils vont parler, ils vont élire leur chef en fait. Donc ce sont des vieux Yakuza, ils sont 8 pour le coup. Et donc ils doivent élire leur chef et ils doivent tous dire. Ils gagnent un point par année qu'ils ont passé en prison, 3 points par meurtre, 5 points par braquage, et donc celui qui a le plus de points devient le chef des Yakuza. L'idée qu'a Kitano, c'est que pendant toute la séance où les 8 vont expliquer tout leur CV, en fait, il met la caméra au centre et il tourne autour des Yakuza pendant que les Yakuza sont en train de.
Donc c'est
de
un plan séquence en fait.
C'est un plan séquence qui est
fixe. La caméra qui est au milieu de la table et qui tourne.
Ça marche pendant 30 secondes, une fois qu'on a compris l'idée, le plan doit durer à peu près 3 ou 4 minutes, vu que chacun des Yakuza va arriver jusqu'au comptage des points finales. Une fois qu'on arrive au bout des 4 minutes, on n'en peut plus de ce plan-là, de cette espèce de systématicité de la mise en scène, où il y a une idée, il la suit, même si l'idée n'est pas bonne, il la suit jusqu'au bout. Et ça, c'est un peu aussi ce problème de rythme qu'on trouvait dans Getting Any, je le trouve encore... pire dans ce genre d'idée de plan
qu'il y a dans un gros problème là-dessus.
Vous pensez qu'il est conscient ou pas de ça, de ce problème de rythme, de ce problème de dosage? C'est toujours la question, hein, finalement.
Après coup, peut-être, mais pas pendant le tournage.
Pendant le tournage, non. Pendant,
pour Getting Any, il en a eu conscience. Parce que je pense, c'est un film qui est quand même effectivement très déstructuré, c'est aussi très volontaire. Sur ce dernier film, je pense pas, parce que le film... Alors, j'ai pas vu encore les chiffres du box-office au Japon, mais je pense que le film a très bien marché parce que justement c'est très inoffensif, c'est une comédie familiale.
Les acteurs aussi sont très connus au Japon.
Les acteurs sont très connus.
Ils sont tous partis de l'ancienne génération, la génération Kitano, ils ont tous le même âge que lui, ils ont commencé à peu près tous en même temps. On trouve même dans celui-là Tatsuya Fuji, l'acteur principal de l'Empire des Sens. Mais tous les autres acteurs, en fait, à peu près, sont plus ou moins connus, en fait. C'était des acteurs des années 70-80. Ce qui fait que, il a eu, je pense, finalement, en faisant celui-là, il avait une envie de rassembler, voilà, cette génération. Faire un film, de délirer un peu ensemble.
C'est les expandables japonais.
Et de quoi?
Ce sont les expandables japonais.
Ah oui, un petit peu, ouais. Il y a un côté comme ça, ouais, certainement. Hein.
Ils sont beaucoup moins forts quand même que les Expandables, mais ils font autant de dégâts finalement sur ce qui se passe au Japon. Enfin, le parallèle n'est pas si mauvais que ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai surtout ce que je reproche à ces films, et ça reprend un peu une thématique qu'on a évoquée précédemment, c'est que tous les Yakuza de Ryuzo, Seven, sont vraiment des caricatures de personnages qu'ont incarné les acteurs, des films de Kitano. Et que Kitano ne croit plus en ces personnages, contrairement à ce qu'on pouvait voir dans ces films des années 90.